Basile, votre application de recherche immobilière présente
Sud Radio Parlons Immo, midi 13h, Sylvain Lévy-Valency.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous dans votre émission préférée du week-end. Nous sommes dans Parlons Immo, c'est sur Sud Radio. Bonjour la France. Et si vous êtes à table, on vous souhaite un excellent appétit. C'est votre émission, on va parler de votre immobilier, de votre logement avec l'équipe qui m'accompagne chaque semaine avec Bérénice de Villefloriot. Comment elle va Bérénice aujourd'hui?
Elle va bien, elle est en pleine forme.
Eh bien écoutez, voilà, et ben, c'est déjà pas mal d'être en pleine forme. Et Grégoire Darico également, comment il va le Grégoire?
Fatigué, mais ça va.
Voilà, on n'est pas fatigué à votre âge, mon cher. Voilà, on a notre super expert, elle docteur de la rénovation énergétique, directeur éco-transition chez Sofinco, notre chroniqueur préféré. Comment il va Laurent Permas?
Il va très bien Sylvain, merci, il fait beau.
Voilà, il fait beau. Alors si je vous dis, les amis, effectivement, quand vous cherchez un bien immobilier, vous faites des dizaines d'annonces, vous allez sur les portails, les visites inutiles, parfois la peur de passer à côté, par exemple, du bien que vous cherchez, du bien de vos rêves. Et effectivement, c'est un véritable parcours du combattant. Ça, vous le savez tous, on est tous passés par là. Pourquoi c'est devenu si compliqué de trouver son logement? Est-ce que la technologie peut enfin nous simplifier la vie? Mais écoutez, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on reçoit Anthony Arnold, le directeur du développement de Basile. Il est avec nous. Bonjour Anthony.
Bonjour Sylvain.
Voilà, vous allez nous expliquer comment la technologie, peut-être une originalité dans la recherche, peut aider les Français à mieux trouver leur logement. On écoutera également nos auditeurs après avoir récolté leurs questions par SMS en envoyant IMO, I2MO au 728. Avec vous Bérénice, et on parle de quoi cette semaine?
Mais on va parler de la remontée des taux, parce que la Banque Centrale Européenne a remonté ses taux directeurs. Alors ça peut être du chinois pour certains, mais en fait ça va impacter les consommateurs et notamment les taux des crédits immobiliers. Donc on va en parler avec notre expert.
Absolument, voilà. Et on discutera également de rénovation énergétique avec vous, mon cher Grégoire.
Oui, et Sylvain, une chronique verte que l'on vous proposera avec Laurent Permas pour son plus grand plaisir, puisque l'on va parler du rôle des arbres dans la rénovation énergétique. Et puis on va parler aussi dans notre chronique Maison Saine des asthmatiques et du logement.
Un vrai sujet. Et tout de suite, sans plus attendre, les informations de la semaine écoulée.
Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency.
Bérénice, le programme des infos à retenir de cette semaine.
Alors au programme, une nouvelle tendance, c'est propriétaires qui préfèrent louer à des personnes seules plutôt qu'à des couples. Ensuite, des maires bretons qui inventent des solutions très concrètes face à la crise du logement. Et enfin, une histoire qui rappelle une règle simple, je vais vous la raconter. Hein. La règle, c'est avant d'acheter, ne jamais se fier à une seule visite.
Eh bien écoutez, tout un programme. On commence avec une tendance assez étonnante sur le marché locatif que vous avez repéré. Certains propriétaires ne veulent plus forcément louer à des couples.
Oui, et c'est assez révélateur en fait du climat actuel sur le marché de la location. Jusqu'ici, on avait plutôt tendance à penser qu'un couple rassurait un propriétaire, hein, deux revenus, deux salaires, donc en théorie davantage de sécurité pour payer le loyer. Je vois un petit oui de la tête de ce côté-là. Eh bien, une réalité prend de l'ampleur. En France, près de 45% des mariages finissent par un divorce. 130 000 divorces sont prononcés chaque année. Et certains propriétaires, eux, eh bien, ils ont fait le calcul. Un couple qui se sépare, c'est un logement qui se libère brutalement. C'est deux personnes qui partent. Un loyer qui s'arrête. Une recherche de nouveaux locataires à relancer en urgence. Alors de plus en plus de propriétaires bailleurs préfèrent miser sur la stabilité d'un locataire plutôt que sur deux revenus, mais un risque de rupture quoi. Alors sur des forums spécialisés, on constate qu'il y a de plus en plus de propriétaires qui témoignent sans complexe. Hein. Certains ont même arrêté de louer aux jeunes couples après avoir vécu plusieurs départs prématurés. Alors attention, juridiquement, c'est pas top. Refuser un dossier en raison de la situation familiale est un critère discriminatoire. On n'a pas le droit. Mais dans les faits, bon bah rien ne le prouve. Hein. Le propriétaire reste libre dans son choix final. Et donc le phénomène, on constate aussi le phénomène inverse qui existe. Des candidats à la location qui font semblant d'être en couple pour rassurer le propriétaire. Ça aussi, c'est interdit. En ajoutant un nom sur le bail alors que la deuxième personne n'habitera jamais dans le logement. Donc on voit que le marché du locatif pousse des stratégies, de plus en plus créative du côté des deux côtés du bail.
D'ailleurs, j'ai une petite énigme à vous poser. Quelle est la première cause de divorce en France?
Le mariage.
C'est le mariage, absolument.
Vous l'aviez déjà fait.
Bien vu. Voilà, comme quoi, voilà, vous savez, passé un certain âge, on radote là, on est redondant. Alors, on part en Bretagne où des maires tentent de trouver des solutions très concrètes pour loger les actifs et les familles.
Oui, et là, c'est là qu'on en parle beaucoup de cette crise du logement dans notre émission. Bah là, c'est plus seulement un sujet de grandes villes. On le voit hein, dans le Morbihan, plusieurs communes cherchent des solutions pour éviter de devenir des villages magnifiques. mais vide une grande partie de l'année. Alors, premier exemple, c'est à Locmariaquer. C'est une commune littorale française d'environ 1600 habitants où 6 logements sur 10 sont des résidences secondaires. Donc, hors saison, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, l'activité ralentit. Par exemple, une boulangerie a fermé, la supérette a dû fermer 2 mois cet hiver et même l'école est menacée de perdre une classe. Donc, le maire, il s'est dit, on va agir de façon urgente. Il a eu recours à un dispositif pas très connu du grand public, ça s'appelle le BRS, le bail réel solidaire. Le principe, c'est le ménage achète le logement, mais pas le terrain. Le terrain reste détenu par la collectivité ou un organisme foncier. Résultat, eh bien, le prix d'achat baisse fortement. Par exemple, une maison qui se vend 240 000 euros, eh bien, elle est 40% en dessous du prix du marché, donc ça vaut le coup. Et ça change tout pour une famille donc, qui travaille sur place. Ça permet de rester dans la commune, de scolariser ses enfants sur place et de faire vivre les commerces et les services. Et deuxième exemple, rapidement, à Grandchamp, hein, toujours dans le Morbihan, bah là, le maire a imaginé un village de tiny house. Alors, je vous en avais déjà parlé, c'est des petites maisons compactes d'une quinzaine de mètres carrés installées sur le terrain d'un ancien camping, là, à Grandchamp. Et donc, certaines de ces maisons sont proposées en logement social. La mairie loue aussi les emplacements à 150 euros par mois à des personnes qui possèdent leur propre tiny house. Et là, eh ben, la demande est énorme. Le maire dit qu'il a reçu entre 150 et 180 demandes. Donc, on voit, voilà, c'est pas évident pour les communes. Et on voit que certaines communes, ben, elles essayent de résister à cette crise du logement, d'apporter des solutions. Donc, il faut reconnaître que ces maires, ils sont vraiment près de leurs habitants.
Alors, et pour terminer, une histoire un peu plus légère, mais très utile pour ceux qui veulent acheter un appartement.
Oui, rapidement, bah, c'est l'histoire de Juan. Alors, Juan, il a 30 ans, il est cadre, et fin 2024, il hérite de 114 000 euros de son grand-père, donc il décide d'en faire un apport immobilier. Il visite deux pièces de 35 mètres carrés, donc là, il a un coup de cœur, c'est à Paris, hein. Prix affiché 460 000 euros, c'est cher, mais bon, c'est Paris. Il propose 452 000, et là, c'est accepté tout de suite. Donc c'est vraiment un coup de cœur cet appartement, lumineux, traversant, comme il veut. Et donc il emménage et là, ça sent pas bon. Ça sent une espèce de cuisine thaïlandaise. Et très très fort. Donc le midi et le soir, à tel point que ses rideaux sentent le thaï, ses vêtements sentent le thaï, ses collègues lui disent « Ah mais tu sens la nourriture thaï au travail ». Et en fait, au rez-de-chaussée, ben, y a un restaurant thaï avec le conduit d'aération qui donne directement sur la cour de l'immeuble. Et en fait, Juan n'avait rien vu lors de ses deux visites parce qu'il avait visité en plein milieu de l'après-midi. Donc la leçon, c'est quoi? Visiter à des horaires différentes. Par exemple, le matin, le soir, et pas que dans l'après-midi. Et bon, pour la petite histoire, et ben, Juan, il est en cours de négociation avec la copropriété pour déplacer le conduit. On espère que ça devra aboutir et sinon, bah, il va revendre.
Merci Bérénice. Et tout de suite, sans plus attendre, on va attaquer le chantier du siècle.
Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente...
Sud Radio, parlons éco-rénovation.
Grégoire Daricot, Laurent Permas.
Et oui, cette semaine, une question un peu originale, parce que quand on parle rénovation énergétique, on pense isolation, chauffage, fenêtres, pompe à chaleur, mais rarement aux arbres. Pourtant, Laurent Permas, il pourrait être de bien précieux alliés pour notre confort et nos économies d'énergie.
Eh bien oui, on va changer de parler de la pompe à chaleur, et justement, avec les fortes chaleurs que nous connaissons déjà, on l'a vu ces quelques dernières semaines, eh bien c'est un sujet de plus en plus important. Avant de parler de climatisation, et de travaux coûteux, il existe parfois une solution très simple, c'est l'ombre.
Eh ouais, Laurent, soyons concrets, un arbre peut-il réellement changer quelque chose à la température d'une maison?
Bon, alors, on enfonce aussi là une porte ouverte, hein, oui, et même parfois de façon spectaculaire en fait. Un arbre bien placé devant une façade exposée au sud, donc il faut bien voir avec la boussole, hein, ou à l'ouest, peut limiter fortement l'ensoleillement direct pendant les heures les plus chaudes. Le résultat est très concret, hein. On va avoir moins de chaleur qui pénètre dans le logement, moins de surchauffe intérieure et puis moins besoin de climatiser si jamais on a une pompe à chaleur. Alors certaines études montrent que la température ressentie à proximité d'un arbre peut être inférieure de plusieurs degrés à celle d'une zone entièrement minérale. C'est parfait pour prendre l'apéritif.
Ouais, ouais, c'est la petite tonnelle qui va bien. Oh.
Et Laurent, finalement, c'est pas seulement la température extérieure qui pose problème.
Oui, lorsqu'il fait 32 degrés dehors, c'est pas forcément très agréable, hein, mais lorsque le soleil tape directement sur une baie vitrée, je vais y arriver ce samedi, ou une façade toute l'après-midi, c'est là que le logement se transforme en four. Les arbres, ils jouent un rôle tout simplement de parasol naturel, même plus intéressant que le parasol naturel. Et puis les avantages, c'est qu'ils agissent avant même que la chaleur n'entre dans le logement. On bénéficie du vent, ça rafraîchit.
Alors Laurent, tout cela est alléchant, mais attention quand même, planter un arbre ne remplace pas une bonne isolation du logement.
Non, non, faut pas se mentir. En fait, hein, un arbre remplace jamais une toiture mal isolée ou des combles ou tout simplement une bouillarde thermique. Hein. Il complète parfaitement les travaux. Par contre, hein, on pourrait dire que l'isolation protège le logement et la végétation protège l'environnement. Vous voyez, c'est un bon slogan immédiat du logement. Les deux fonctionnent très très bien ensemble.
Alors, quid des auditeurs ? Comme c'est le cas de beaucoup d'entre nous, qui vivent en ville ou en appartement.
Excellente question. Eh bien, on va tout simplement penser à la végétaliser tout simplement son balcon, hein, installer des plantes grimpantes, créer de l'ombre sur une terrasse ou favoriser la présence d'espaces verts autour du logement. D'ailleurs, certaines collectivités s'intéressent de plus en plus à ces sujets. Hein. On a dans des villes, elles plantent des arbres dans des rues, elles améliorent le confort de tous les habitants du quartier. C'est pas forcément pour l'aspect visuel et beauté, c'est très impactant aussi pour les chaleurs.
Au final, ça peut avoir un impact sur la facture.
Oui, moins de ventilateurs, moins de climatisation, on consomme moins du coup l'électrique, et puis on parle souvent des économies d'hiver grâce à l'isolation, mais le confort d'été devient vraiment un enjeu économique et de santé publique.
Allez Laurent, pour terminer, les arbres ne remplacent pas la rénovation énergétique, mais ils peuvent clairement l'accompagner.
Exactement, rénovation énergétique, c'est pas seulement ce qui se passe à l'intérieur du logement, c'est aussi son environnement. Un arbre bien placé peut rendre un logement plus confortable pendant plusieurs décennies.
Allez, merci Laurent Permas. À toutes et à tous, la prochaine fois que vous chercherez comment garder votre logement au frais, regardez peut-être aussi ce qui pousse devant vos fenêtres. À la semaine prochaine sur Sud Radio.
Sud Radio, parlons éco-rénovation.
Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie.
Voilà, on va faire une petite pause de quelques instants et on vous reprend tout de suite après pour poursuivre votre émission préférée.
Basile, votre application de recherche immobilière, présente.
Sud Radio, parlons immo. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency.
Salut à tous les amis, bonjour la France, on est ravis d'être avec vous. On parle de votre immobilier, de votre logement, comme chaque samedi de 12h à 13h sur Sud Radio, un peu partout en France. Voilà, alors justement, on va poser des questions. Ces questions, vous nous les posez forcément avec des sujets d'actualité. Ben justement, ça tombe bien puisque ça vous concerne.
Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente.
Sud Radio, parlons immo, ça vous concerne.
Et oui les amis, ça vous concerne et ça vous concerne chaque semaine. Cette semaine, nous avons reçu un SMS, Bérénice.
Et oui, je rappelle que vous pouvez nous envoyer vos SMS qui concernent votre logement. Hein. Vous envoyez au 7-20-18 IMO, I2MO, suivi de votre question, votre logement, si vous louez, achetez, enfin bref, on vous répond. Alors là, c'est Ikram qui nous a envoyé un message. Elle nous a dit qu'elle était un petit peu dubitative, parce que c'est vrai que la Banque Centrale Européenne a relevé ses taux directeurs cette semaine. Alors on va expliquer ce que ça veut dire. Et elle se demande si on doit s'inquiéter pour les crédits immobiliers. Ce qui crame, elle aimerait acheter son premier logement, sa résidence principale, et elle a peur que les taux de crédit augmentent. Alors, pour y répondre, on va accueillir notre experte, Sandrine Alonier. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes la porte-parole du réseau Vous Financez. Alors, Vous Financez, c'est des courtiers en crédit. Et c'est vrai que, Sandrine, peut-être pour expliquer, c'est vrai qu'il y a une augmentation de l'inflation qui est alimentée par les tensions géopolitiques et la hausse des prix de l'énergie. Et donc, cette semaine, la Banque Centrale Européenne a décidé de relever ses taux de directeurs de 0,25 points. C'est pour protéger le pouvoir d'achat, mais ça risque aussi de faire remonter, de fragiliser l'économie européenne et de faire remonter les taux des crédits immobiliers. Est-ce qu'on peut expliquer pour les consommateurs brièvement?
Oui, tout à fait. Donc la Banque Centrale Européenne, son rôle principal, c'est de maintenir une inflation sous les 2%, et là on est à plus de 3%. Et pour cela, elle a un instrument de politique monétaire, c'est d'augmenter ses taux directeurs, et notamment ses taux de refinancement. Donc c'est les taux auxquels elles-mêmes les banques vont emprunter de l'argent. Et en fait, on permet, grâce à ces taux qui augmentent, normalement, il y aura moins de crédits, donc moins de consommation et du coup, des prix qui vont à nouveau baisser. Donc, c'est ça le mécanisme. Mais c'est vrai que pour ceux qui ont un projet d'achat immobilier ou même de crédit à la consommation, ça peut entraîner une hausse des taux. Mais la bonne nouvelle, c'est que les banques sont actuellement en politique elles veulent capter des nouveaux clients. Et pour ça, le meilleur moyen pour elles, c'est le crédit immobilier, puisque c'est à ce moment-là qu'on accepte de changer de banque. Donc là, les banques sont sont un peu partagées entre la nécessité d'augmenter leurs taux puisqu'elles-mêmes vont emprunter l'argent plus cher, mais aussi la nécessité de continuer à proposer des taux bas pour capter des nouveaux clients. Donc pour ceux qui ont un projet immobilier actuellement, comme celui de Madame, à mon avis, la bonne idée, c'est de pas trop attendre, parce que là, on a des banques qui, avant cet été, font des opérations commerciales avec des taux uniques à 3,10% sur 20 ans, par exemple. Beaucoup de prêts aidés aussi dans les banques. Donc là, la hausse des taux ne se fait pas encore sentir. Et si elle se fait sentir, ce sera plutôt cet été ou à l'automne. Donc mieux vaut ne pas trop attendre. Et aussi, ce qu'on peut dire, c'est que même si les taux remontent un petit peu, c'est pas forcément dramatique en termes de pouvoir d'achat, puisque par exemple, pour un crédit de 200 000 euros, bien un taux qui passerait de 3,40 à 3,50, c'est seulement 10 euros de plus par mois de mensualité. Donc c'est pas de nature à mettre en péril un projet immobilier. Non, et le conseil, c'est ne pas trop attendre, parce que de toute façon, les taux ne baisseront plus. D'accord. Et ils risquent plutôt d'augmenter dans les prochains mois.
Mais oui, je rappelle qu'il y a toujours la guerre au Proche-Orient, donc forcément, ça risque pas de baisser. Petite question. Là, en moyenne, on emprunte combien sur 15, sur 20 et sur 25 ans? C'est quoi les taux?
En moyenne, on est à 3,3% sur 15 ans, 3,5% sur 20 ans et 3,6% sur 25 ans. Mais voilà, je le redis, comme certaines banques vraiment ont des politiques commerciales agressives, on peut trouver aux alentours de 3 ou 3,30 sur toutes les durées.
Donc faites appel à un courtier, ça vaut le coup, parce que pour le coup, les banques ne pratiquent pas du tout les mêmes taux. Il y a des fortes disparités, donc faites appel à un courtier. Merci beaucoup Sandrine Allonier, je rappelle que vous êtes porte-parole de Vous Financer.
Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne.
Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr.
Et c'est l'heure de recevoir notre grand invité qui est avec nous sur le plateau. Bonjour Anthony Arnold.
Bonjour Sylvain.
Merci d'avoir fait le déplacement.
Avec plaisir.
En ce week-end un peu ensoleillé, ou peut-être même plutôt en demi-teinte, vous êtes directeur du développement du Tinder de l'immobilier. On peut le dire comme ça ou pas?
Vous pouvez le dire comme ça.
Voilà, c'est un portail. Alors là, pour le coup, effectivement, ce qu'on va chercher, c'est plutôt un bien immobilier. Donc Basile, c'est pas la bande à Basile, hein, c'est Basile. Parlons justement de cette expérience. Chercher un logement, ça donne parfois l'impression justement d'avoir un deuxième travail. Enfin, c'est presque à plein temps. Si on y ajoute le stress pour trouver une location ou son projet immobilier, c'est vraiment une galère. En quoi, vous aidez les Français à mieux trouver leur logement?
Justement, en répondant à ces problèmes, comme vous l'avez dit, c'est toujours compliqué, c'est fastidieux, ça prend du temps. Et justement, l'idée de départ de Basile, justement, c'était de répondre à ces questions. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour rendre ça plus ludique, plus simple, plus fluide? Donc effectivement, on a mis en place différents outils comme un algorithme, de l'intelligence artificielle et un machine learning pour aider à la décision à tous les porteurs de projets.
Donc ça veut dire que si, quand j'arrive sur Basile par exemple, je fais quelques requêtes dans ce que je veux et l'IA ou la machine mémorise mes préférences et va me proposer un peu comme sur Tinder selon mes goûts quoi.
C'est à peu près ça.
Soit pas à gauche, soit pas à droite, pareil ou...
C'est exactement le cas. Après, c'est en fonction effectivement des besoins et des envies de chacun. L'exemple que j'aime donner, c'est que si on était, on est plusieurs autour de la table et qu'on cherchait tous un 100 mètres carrés de 4 pièces, effectivement, on a différentes affinités. Même si on cherchait au même endroit la même surface, en fait, on aurait une recommandation en fonction de nos affinités. Donc effectivement, on rentre les critères de base, on va dire somme toute classique, hein, 100 mètres carrés de 4 pièces. Par contre, par exemple, vous Sylvain, vous aimez la verdure et que moi j'aime quand c'est plus, plus simple et plus strict, on va dire. Et en fait, on aura un 100 mètres carrés de 4 pièces, mais avec nos différentes affinités personnelles. Et en fait, c'est là où on va faire gagner du temps. Au lieu de simplement d'être dans la diffusion, pure et simple, classique, voilà. De vous montrer un maximum d'annonces qui correspondent aux critères de 100 mètres carrés de 4 pièces, effectivement, on va vous présenter ce qui vous correspond à vous. Et quand on est tous pareils, quand on recherche quelque chose, on veut quelque chose qui nous parle à nous.
Bien sûr. Alors justement, les Français ont accès à des milliers, voire des millions d'annonces, mais souvent on a ce sentiment justement de perdre du temps. C'est quoi la principale frustration des acheteurs ou des locataires aujourd'hui, si on devait dire? Parce que parfois, effectivement, alors en location, c'est clair, il y a plus rien à louer, donc c'est vraiment le parcours du combattant. Mais voilà, si je devais vous poser la question comme ça, qu'est-ce que vous diriez?
Malheureusement, on le voit déjà avec la hausse des taux, c'est la hausse des prix. Donc évidemment, aujourd'hui, on sait qu'il va y avoir un recul des demandes. Donc déjà, au niveau des locations, c'était déjà de plus en plus compliqué. Mais là, forcément, effectivement, les gens vont reporter leur projet d'acquisition. Plus vont basculer sur de la location et le critère principal aujourd'hui c'est le cadre de vie mais toujours confronté à la réalité.
Est-ce que ces Français qui viennent sur votre site, est-ce qu'ils savent réellement ce qu'ils cherchent lorsqu'ils démarrent leur projet, lorsqu'ils y pensent?
Je pense que dans l'immobilier, on a une idée de ce qu'on veut. Et en fait, après, c'est ce qu'on voit qui nous donne soit des idées, soit des choses auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé. Et ce qui fait qu'on affine de la même façon que Basile, c'est qu'en fait, en utilisant, on va affiner notre recherche. Un coup de cœur, on sait très bien, c'est émotionnel. Et un bien qui peut nous intéresser sur le papier, quand on le voit en vrai, on dit « Ah non, en fait, c'est pas ce que je pensais ».
Bien sûr, bien sûr.
Donc en fait, voilà.
Oui, il faut se projeter. Et puis, comme dirait Bérénice, il faut visiter le bien parfois à plusieurs périodes de la journée. Parce que ça, effectivement, c'est le piège quand vous allez à la pause. Non, mais c'est vrai, entre le déjeuner et le dîner, il vaut mieux visiter. Quels sont les critères, justement, pour terminer cette première partie de l'interview, parce que vous restez avec nous sur le plateau, justement, les prix, je suppose, la surface, premier critère des Français ?
Le prix, c'est un point très important. Après, on sait que depuis, on va dire, l'ère post-Covid, il y a le cadre de vie, les temps de trajet.
Les écoles, je suppose.
Quand je parle du cadre de vie et du temps de trajet, c'est un petit peu tout ça. C'est-à-dire, où est-ce que je mets mes enfants à l'école, où est-ce que je vais aller faire mes courses, et la maison et le travail. Donc, c'est un petit peu tout ça, et toujours après relié avec le bon prix, que ce soit la transaction ou de la location.
On va continuer avec vous, restez avec nous sur le plateau, on comprend mieux pourquoi tant de Français finalement se sentent perdus quand ils cherchent un logement. Dans un instant, après la pause, on verra justement comment les nouvelles technologies peuvent changer la donne. Vous êtes sur Parlons Immo et on se retrouve sur Sud Radio, à tout de suite.
Basile, votre application de recherche immobilière présente
Sud Radio Parlons Immo, midi 13h, Sylvain Lévy-Valency.
Eh bien, rebonjour les amis, si vous prenez l'émission En Marche, c'est votre émission préférée du week-end, 12h, 13h, Parlons Immo sur Sud Radio, un peu partout en France. On est toujours avec notre grand invité qui a fait le déplacement depuis Genève pour venir nous voir, c'est Anthony Randon. Merci Anthony d'être avec nous sur le plateau. Ensuite, on s'interrogera avec vous, mon cher Grégoire, sur ce qu'est une maison saine.
Et oui Sylvain, et on verra le lien avec l'asthme.
L'asthme qui est un vrai sujet,
qui est un fléau,
avec la qualité de l'air. Et on est de retour avec vous, mon cher Anthony, directeur de développement de Basile, la recherche immobilière, le Tinder de l'immobilier. On parle beaucoup d'ailleurs aujourd'hui un peu partout d'intelligence artificielle. D'ailleurs à un moment donné on va se demander si finalement on n'aura pas des hologrammes qui feront l'émission à notre place ou des moteurs qui écriront nos chroniques, mais enfin c'est déjà un peu le cas quand même, pas qu'il faut être très clair. Concrètement, qu'est-ce qu'elle peut apporter justement d'intelligence artificielle à celui, très concrètement et très basiquement, à celui qui cherche un logement ou celle qui cherche un logement?
Très concrètement, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, celui qui ne la connaît pas et qui n'a pas compris ce que c'était, c'est que, il vient de sortir. Ça fait quand même déjà quelques années qu'on utilise les ChatGPT. On a vu les différentes évolutions, ChatGPT, Gemini, DeepSeek, etc., etc. Et aujourd'hui, c'est très compliqué, mais en fait, ça répond à une problématique très simple. C'est que ça nous fait tous gagner du temps. Aujourd'hui, que ce soit trier les emails, etc., etc.
C'est vrai que vous êtes très nombreux à nous le dire, effectivement.
Ce sont des outils.
Des tâches sans valeur, finalement, sont assumées par l'IA.
C'est exactement ça. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, en tout cas pour l'IA, c'est que notre objectif, c'est de le mettre au service de la recherche immobilière. Donc, avec différents éléments. Et dans l'objectif, c'est encore de faire gagner du temps. Donc la première question que vous aviez posée, c'est-à-dire qu'en gros, comment tous ces outils en fait permettent de faire gagner du temps, de faciliter la vie de toutes les personnes qui cherchent un bien.
Faites-nous rêver ou faites-nous flipper, ça dépend. Peut-on imaginer demain une recherche immobilière, par exemple, où on va discuter avec un assistant? Je prends un exemple, je suis devant mon écran et je lui dis, est-ce que l'IA va comprendre mes objets très personnels? Par exemple, j'aimerais bien un quartier vivant où il y a des bars, des restos, des loisirs. Ou tout simplement, je voudrais être à proche de mes parents qui habitent à telle adresse. Est-ce que je peux converser avec celui qui est en face de moi? Est-ce que je serai toujours obligé de saisir des requêtes à la main?
Évidemment que c'est quelque chose qui arrive. Ça l'est déjà
avec ChatGPT,
etc. Mais encore une fois, dans ce métier, dans ce domaine qui est l'immobilier, il y a quand même un facteur qu'il faut pas oublier, c'est le facteur humain. Parce que vous avez beau avoir l'IA que vous voulez, l'outil le plus parfait, à un moment donné, vous êtes obligé de vous déplacer pour aller visiter. Même avec des visites 360, 3D, tout ce qu'on veut, à un moment donné, c'est l'endroit de vie. Et la plupart du temps, toutes les personnes qui recherchent, c'est souvent des projets de vie. C'est très peu des personnes qui font de l'investissement, qui achètent sur papier. Donc effectivement, ça arrive, c'est déjà le cas, etc. Mais ça ne remplacera jamais...
Est-ce que cette technologie, par exemple, pourrait éviter qu'on aille sur des visites qui seraient inutiles? Parce que souvent, on visite plusieurs biens avant de trouver celui qui convient. Est-ce que là, par exemple, on réduirait le champ, les tâches chronophages de se déplacer parfois pour rien?
Bah en fait, merci pour la question. C'est déjà le cas chez Basile, pour le coup. Parce que l'objectif, c'est pas, comme je vous l'ai expliqué, c'est pas de la simple diffusion sur Basile. Le but étant de proposer le bien qui vous correspond à vous. Ce qui fait que, de facto, si je vous propose pas simplement tous les 100 mètres carrés de 4 pièces, pour reprendre l'exemple que j'ai cité précédemment, c'est de vous proposer les biens qui vous correspondent à vous. Donc déjà, de facto, on fait un tri sur le bien qui vous correspond et tous les biens qui pourraient correspondre sur le papier. Donc alors, oui, effectivement, mais ça ne remplacera jamais la visite parce que quand
on
achète,
bien sûr, c'est
un coup de cœur. C'est comme on l'a dit, c'est de l'émotionnel. Et ce sont des engagements de vie.
Donc c'est la crainte que l'IA remplace, non, ça c'est pas possible. Par contre, souvent les professionnels pourraient se poser la question, est-ce que l'IA pourrait aller, si on devait extrapoler, remplacer les professionnels de l'immobilier? Est-ce que vous y croyez à ça ou...
Je n'y crois pas, non. Personnellement, non.
Pour quelle raison?
Tout simplement parce qu'on
aura toujours besoin du rapport tactile avec l'agent.
Alors tactile, voilà. je ne sais pas, mais à un moment donné,
c'est dans le sens
émotionnel. À un moment donné, je dois visiter, et alors certainement il va y avoir de nouvelles choses qui vont arriver, de nouvelles façons de s'organiser. On voit très bien avec tous les professionnels immobiliers qui créent de nouvelles formules, les réseaux de mandataires, les réseaux d'agences, etc. On le voit très bien, mais il y aura toujours ce besoin d'être accompagné sur différents éléments, parce que aujourd'hui, nous, on parle plus de l'immobilier, donc on est au courant de tous ces éléments-là. Mais il y a la majorité des gens, ils ont toujours des questions. Et même quand on a une IA qui va nous répondre, on veut toujours le côté humain. Je vais vous donner un exemple qui est très simple.
Très concret.
Il y a quelques années, on parlait beaucoup de dématérialisation, digitalisation, etc. Mmh. Un exemple très simple, les imprimantes. On a dit oui, les mails, etc., ça a supprimé le papier. Est-ce que le papier a été supprimé? Est-ce que les imprimantes ont été supprimées? Vous avez vous-même autour de la table des papiers.
Bien sûr.
Donc en fait, oui, ça va réduire, ça va s'organiser de différentes façons, mais l'humain sera toujours
très
au centre de l'immobilier.
Anthony Arnold, dans 5 ans, comment on cherchera un logement selon vous?
Avec Basile.
Ça c'est bien vu. Merci beaucoup Anthony Arnold. Vous restez avec nous parce qu'on justement, on va parler justement d'économie tout à l'heure dans la grande question. Je rappelle que vous êtes le directeur du développement de Basile. Il est temps les amis de parler de la qualité de l'air, très important en période parfois de canicule, de l'air dans votre logement bien sûr.
Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Murprotec vous présente
Sud Radio. Parlons Immo, Maison Saine.
Eh bien Grégoire, cette semaine, une question importante qui mérite d'être posée est si notre logement jouait lui aussi, par exemple, un rôle dans l'apparition de l'aggravation des symptômes liés à l'asthme. On a l'impression que ça se développe de plus en plus.
Ben oui Sylvain, aujourd'hui nous allons parler d'une maladie qui touche des millions de Français, l'asthme. Alors on pense souvent au pollen, à la pollution extérieure ou aux allergies saisonnières pour l'asthme, mais lorsqu'on parle d'asthme, on oublie souvent que nous passons l'essentiel de notre temps à l'intérieur de nos logements et que l'environnement intérieur, il peut avoir un impact très important sur notre confort respiratoire, surtout qu'en France, l'asthme donc touche 4 millions de personnes, dont de nombreux enfants.
Ouais, c'est un vrai sujet. Alors justement, c'est quoi les principaux ennemis d'un asthmatique dans un logement?
Alors le premier, Sylvain, c'est souvent l'humidité, parce qu'elle favorise le développement de deux éléments particulièrement problématiques. D'abord les moisissures et puis bien sûr les acariens. Ces deux facteurs sont connus pour être des déclencheurs ou des aggravants de crises d'asthme chez les personnes sensibles.
Alors, on imagine souvent d'ailleurs qu'il faut voir de grandes taches noires sur les murs pour s'inquiéter, de la moisissure, et parfois ça peut être invisible.
Ouais, pas besoin d'aller jusque-là. En fait, c'est même une des difficultés, on en avait déjà parlé avec nos experts habituels, Edouard David ou Manuel Wojcikowski. Les moisissures, elles peuvent être cachées, alors soit derrière un meuble, derrière un angle peu visible, derrière une cloison aussi, ou simplement présentes sous forme de petits spores dans l'air. Et avant même d'être visibles, elles peuvent déjà avoir un impact sur la qualité de l'air intérieur et donc sur l'asthme.
Oui, c'est un vrai sujet. D'ailleurs, c'est en termes de santé publique, je rappelle le cas de Marine Leblond, ouais, qui a carrément eu les poumons transplantés justement à cause des problèmes comme ça. Alors, c'est quoi les signes, si on doit, pour ceux qui nous écoutent, qui doivent alerter?
Alors, plusieurs éléments, Sylvain, qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille. D'abord, une odeur persistante de renfermé. Ensuite, de la condensation fréquente sur les vitres, des murs froids ou humides, ou encore des symptômes qui s'améliorent dès qu'on quitte le logement. Parfois, les occupants, ils pensent souffrir davantage à certaines périodes de l'année, alors que le problème, il est en réalité lié à leur environnement intérieur.
Mais alors, justement, est-ce que l'humidité est le seul problème ?
Non, clairement pas. La qualité de l'air intérieur, elle dépend aussi du renouvellement de l'air. Dans un logement mal ventilé, on retrouve davantage de CO2, de particules, de composés chimiques issus des meubles, des peintures ou des produits ménagers. Et tout ça, en fait, peut contribuer à irriter les voies respiratoires.
Oui, je comprends beaucoup mieux. Ce que vous dites, en fait, c'est qu'une maison qui semble propre, saine, par exemple, ne l'est pas forcément synonyme que l'air qui circule à l'intérieur soit forcément sain.
Ouais, c'est exactement ça. On peut avoir un logement très propre visuellement et pourtant respirer un air de mauvaise qualité. L'air intérieur, il est invisible et c'est précisément ce qui le rend difficile à évaluer sans être attentif à ces signes qu'on a mentionnés.
Oui, et d'ailleurs, il existe des centrales de traitement de l'air qui permettent, ouais, de mesurer la qualité de l'air intérieur. Justement, on va être concret. C'est quoi, Grégoire, les premiers gestes qu'il faudrait mettre en place?
Alors, quelques réflexes qui peuvent faire une grande différence. D'abord, aérer quotidiennement, on en avait déjà parlé. Vérifier que les systèmes de ventilation, ils fonctionnent aussi correctement, surtout ne pas les boucher. Éviter l'excès d'humidité dans les pièces, surveiller les signes de condensation. Et puis, ne pas ignorer les odeurs inhabituelles. Lorsqu'un problème d'humidité s'installe, il faut surtout chercher à comprendre son origine plutôt que de simplement masquer les symptômes. On évite les sprays, surtout pour masquer.
Oui, justement, c'est ce qu'on croit, c'est plutôt un cache-misère qu'autre chose. Finalement, on peut dire qu'une maison saine, ça participe à une meilleure qualité de vie, surtout pour les personnes asthmatiques.
Bah exactement, on guérit pas l'asthme en changeant de logement, mais un environnement intérieur sain permet souvent de réduire les facteurs aggravants et d'améliorer considérablement le confort au quotidien. Respirer un air de meilleure qualité, c'est en fait déjà un vrai bénéfice.
Alors, allez, rapidement, un mot de conclusion.
Lorsqu'on souffre d'asthme, on pense naturellement aux traitements ou aux allergies extérieures, mais il faut surtout pas oublier que l'on respire aussi chez soi, plusieurs heures par jour et souvent toute la nuit. Prendre soin de son logement, c'est aussi prendre soin de sa respiration. Et à vous qui nous écoutez, prenez soin de votre air intérieur. En cas de doute, allez tout de suite sur maison-saine.fr. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique Maison Saine, ici sur Sud Radio.
Sud Radio, parlons immo, Maison Saine.
Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé.
Voilà, de retour sur le plateau les amis, on fait une petite pause, on se retrouve juste après pour la dernière partie de notre émission. On parlera du viager cette semaine et bien sûr on posera la grande question, une question que l'on pose chaque semaine. C'est une parole qui circule librement sur un fait d'actualité. À tout de suite.
Basile, votre application de recherche immobilière présente
Sud Radio Parlons Immo, midi 13h, Sylvain Lévy-Valency.
Eh bien, bonjour les amis, si vous prenez l'émission en cours, vous êtes dans votre émission préférée du week-end, Parlons Immo, sur Sud Radio, entouré de l'équipe qui m'accompagne chaque semaine. On parle de votre logement, de votre immobilier. Et tout de suite, justement, on va parler d'un sujet très important qu'on déconstruit aussi, puisque c'est pas forcément une galère que d'y penser. On va parler par exemple du viager.
Parlons viager.
Avec l'Office du viager. Bien conseillé, bien protégé.
Avec vous, Bérénice.
Et aujourd'hui, nous allons parler d'une solution immobilière dont on entend beaucoup moins parler que le viager, mais qui séduit pourtant de plus en plus de vendeurs et d'acquéreurs. C'est la vente à terme. Pour nous en parler, nous retrouvons Marine Livotti, la directrice de l'Office du viager. Bonjour Marine.
Bonjour Bérénice, bonjour à tous.
Alors déjà, pour commencer, qu'est-ce qu'une vente à terme exactement ?
Alors, ben, c'est une vente qui ressemble beaucoup au viager dans son fonctionnement, c'est-à-dire que l'acquéreur va verser un capital au démarrage, qu'on appelle un bouquet, puis des mensualités. Vous l'aurez remarqué, je ne parle pas cette fois-ci de rente viagère comme habituellement, mais plutôt de mensualités, puisque la grande différence, c'est que ces mensualités sont versées pendant une durée que l'on connaît à l'avance, sur 10, 15, 20 ans, contrairement au viager où la rente est versée à vie et dont la durée est inconnue.
Alors, il existe la vente à terme libre et la vente à terme occupée. Quelle est la différence ?
Ben, la différence, elle va être très simple. Dans une vente à terme libre, l'acquéreur récupère immédiatement le bien. Il peut y habiter, il peut le mettre en location dès la signature. Nous commercialisons d'ailleurs actuellement une maison à Venerque, près de Toulouse, dans ce cadre, où l'acquéreur devient immédiatement propriétaire occupant et verse ensuite des mensualités pendant 18 ans. À l'inverse, dans une vente à terme occupée, le vendeur va continuer à vivre dans son logement pendant une période définie. On a par exemple actuellement un chalet que l'on présente sous ce principe-là, qui est à Megève, qui est en vente à terme de la nue propriété sur 15 ans. Et les vendeurs vont conserver donc un droit d'occupation, tandis que l'acquéreur se constitue finalement progressivement un patrimoine exceptionnel.
Alors pourquoi choisir plutôt une vente à terme qu'un viager ?
Ben, la réponse, elle est souvent la même, c'est la visibilité, c'est-à-dire que certains vendeurs vont apprécier de savoir exactement ce qu'ils vont percevoir et pendant combien de temps. Si on prend un exemple simple, si un vendeur reçoit 2000 euros par mois pendant 15 ans, il sait qu'il va percevoir d'avance 360 000 euros sur cette période, en plus du bouquet initial. Cette prévisibilité rassure beaucoup de personnes. Certaines familles apprécient également cette formule car elle permet de connaître précisément les sommes qui seront versées dans le temps, mais le choix va aussi dépendre souvent de l'âge ou du projet de vie du vendeur. Certaines personnes savent par exemple qu'elles souhaitent déménager ou rejoindre leurs proches dans quelques années, alors qu'à l'inverse, on a des vendeurs plus jeunes qui sont confrontés, eux, à des difficultés financières, qui peuvent préférer finalement une vente à terme qui va leur permettre d'obtenir une solution financière sur une durée déterminée, souvent plus courte du coup que leur espérance de vie. C'est donc une solution qui apporte à la fois de la visibilité et de la souplesse.
Donc là, vous nous avez parlé des vendeurs et du côté des acquéreurs maintenant.
Mais là aussi, la vente à terme séduit de plus en plus parce qu'avec un viager, personne ne connaît finalement la durée du versement de la rente, alors qu'avec une vente à terme, tout est connu dès le départ. L'acquéreur y connaît son investissement global, le montant des mensualités et surtout la date exacte de fin de paiement. Cette visibilité financière permet souvent de mieux construire son projet patrimonial.
Est-ce que vous avez un exemple concret de vente à terme que vous avez réalisé ?
Oui, ben on a accompagné plusieurs vendeurs dans ce cadre-là. Je pense notamment à une vente à terme occupée qu'on a réalisée sur une maison sur Béziers. La vendeuse souhaitait rester chez elle tout en améliorant sa situation financière et la vente à terme lui a permis d'obtenir un capital immédiat ainsi qu'un complément de revenus pendant une durée déterminée à l'avance, 7 ans en l'occurrence. Et c'était pour elle une solution qui était rassurante car elle connaissait précisément les montants qu'elle allait percevoir.
Donc finalement, on comprend que la vente à terme, c'est une véritable alternative.
Oui, tout à fait. Ben, le viager et la vente à terme poursuivent toutes les deux le même objectif, qui est une valorisation de patrimoine immobilier. Mais la vente à terme va apporter une particularité importante, c'est cette durée connue dès le départ. Pour certains vendeurs comme certains acquéreurs, la visibilité est un véritable atout. C'est pourquoi on observe actuellement un intérêt grandissant pour cette solution qui est encore plus méconnue que le viager du grand public.
Alors j'ai une petite question. Marine Livotti,
oui.
La personne décède pendant la période, celui qui perçoit la rente.
Alors, celui qui perçoit la rente, quand c'est par exemple sur un mécanisme de vente à terme libre, par exemple, ce sont les héritiers qui, dans ces cas-là, vont prendre le relais au niveau de la perception des mensualités. Donc ça ne s'arrête pas, les versements sont bloqués, l'acquéreur le sait dès le départ,
d'accord,
qu'il va continuer à payer,
okay,
pendant le délai déterminé.
Deuxième question, imaginons que la vente à terme était occupée donc, et la personne donc décède. Et les héritiers ne veulent pas occuper le bien.
Ils peuvent le mettre à disposition dans ces cas-là des acquéreurs, c'est tout à fait possible. Par contre, ils continuent à percevoir
c'est
les
ça.
mensualités.
C'est ça. Donc s'il y a décès, finalement, les héritiers héritent et donc du coup, la personne peut, là, pour le coup, si c'était occupé, peut bénéficier du logement.
Bien sûr, tout à fait. C'est tout à fait possible, oui.
Merci beaucoup.
C'était Parlons Viager.
Avec l'Office du Viager, bien conseillé, bien protégé.
Et maintenant, on passe à la grande question, cette grande question que l'on se pose. On prend quelques minutes de réflexion chaque semaine après l'émission, en toute fin d'émission, pardon, et on pose une question, justement, qui est toujours liée avec l'actualité. L'actualité, bien évidemment, a été assez importante cette semaine. Et vous êtes toujours avec nous, Anthony Arnold, le patron du développement de Basile. Justement, la question que l'on peut se poser, on a eu tout à l'heure Sandrine Lannonier, vous l'avez eu au téléphone, Bérénice, sur l'impact des crédits immobiliers. Alors c'est vrai qu'il y a un paradoxe, c'est un peu schizophrénant. On voit la BCE qui relève ses taux directeurs. Hein. Les taux directeurs permettent aux banques, effectivement, puisqu'elles se prêtent à elles-mêmes et elles empruntent l'argent que nous, on emprunte. Est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact sur l'immobilier? Si je prends par exemple Meilleur Taux ou Empruntis, ils disent que la variation sera très faible parce que les taux d'intérêt sont alignés sur ce qu'on appelle l'OAT, enfin, c'est-à-dire la dette souveraine de l'État, et qu'on n'a pas trop de soucis à se faire sur l'augmentation. Par contre, une augmentation, c'est certain, mais plutôt graduelle. Vous y croyez?
Si j'y crois ou pas, si j'irais plutôt, je l'entends. Pour moi, quand j'entends parler de hausse des taux, c'est un peu comme à la bourse. Dès qu'il y a une rumeur, bah le marché réagit. Et donc, les gens au quotidien, ils ont entendu, ils ont compris qu'il allait y avoir une hausse des taux. Hausse des taux, pour les gens, c'est hausse des prix. Et donc, c'est-à-dire que ça va avoir un impact sur leur capacité.
Après, c'est ce qui est voulu, c'est l'objectif. Hein. L'objectif, c'est de contenir l'inflation, donc de maîtriser les crédits.
Évidemment, mais...
La BCE, ce qu'elle veut, c'est réduire finalement les conditions d'octroi du crédit. Hein.
Bien sûr, j'entends. Mais pour toute personne qui souhaite réaliser un projet, la plupart du temps, ce qui se passe en général, c'est que ils vont dire, on va attendre, on va regarder, même si effectivement, on est sur une vague de hausse.
Ouais. Et c'est petit, hein, c'est ce que nous disait Sandrine Lannonier, c'est léger. Bon, ça, c'est 10 euros pour l'instant. Par mois, hein, sur un crédit de 200 000 euros.
Ça représente quel pourcentage en moyenne?
Là, c'est 0,25%. Alors, pour la Banque Centrale Européenne, donc la BCE, elle a relevé ses trois taux directeurs. Et il y en a un, c'est le taux de prêt marginal, c'est le taux auquel les banques empruntent. Donc, les banques n'ont pas d'argent, elles empruntent l'argent. Enfin, elles empruntent la plupart de l'argent qu'on leur demande. Et donc, là, les banques, forcément, si les banques empruntent plus cher, elles vont augmenter. Après, c'est ce que disait Sandrine, il faut quand même faire le tour des banques parce qu'il y a des banques qui sont plus solides que d'autres. Et qui vont pouvoir ne pas augmenter leur taux tout de suite. Donc c'est ça ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que les emprunteurs, il faut bien qu'ils fassent le tour de toutes les banques, il faut qu'ils négocient, le moment de négocier en tout cas.
Ce qui se passe depuis toujours. C'est pas la première fois qu'il y a une hausse des taux ou qu'il y a une baisse, mais on voit très bien que le marché, c'est assez cyclique. Dès qu'il y a une hausse des taux, il va y avoir une peur.
Mais là, il y a une fébrilité qui est quand même liée à l'antériorité, parce que ça a été violent. Lorsqu'il y a eu la brutale remontée des taux, je rappelle quand même que c'était une augmentation des taux de plus de 300 points de base en l'espace de moins de 3 mois, c'est quand même assez violent. J'avais une question à vous poser, Bérénice. Pourquoi les banques, paradoxalement, c'est pour ça que c'est schizophrénant, font de la pub pour vendre du crédit, et du crédit vraiment à des taux hyper attractifs? Est-ce qu'elles perdent des clients?
Le but d'une des banques, c'est de récupérer des clients. En fait, les banques, leur but, c'est, il y a beaucoup de concurrence, et leur but, c'est vraiment de récupérer des clients.
Est-ce qu'elles ont perdu des clients, par exemple, le fait d'avoir fermé des agences, le fait que on n'a plus jamais un conseiller physiquement devant soi?
Il y a de plus en plus de banques sur le marché. On voit qu'il y a de plus en plus de banques. Il y a des banques en ligne, il y a de plus en plus. La concurrence n'a jamais été aussi féroce. Donc une banque, son seul moyen de gagner des clients, c'est le prêt immo, parce que le prêt immo, on fidélise un client sur 20 à 25 ans. Donc ça veut dire qu'on est sûr d'avoir ce client pendant 25 ans. Et après, on va lui proposer d'autres crédits, on va lui proposer des assurances vie, on va lui proposer d'ouvrir un livret par-ci par-là. Et c'est là qu'elles se font de l'argent, les banques. Mais sur le crédit immobilier, elles se font quasiment pas de l'argent. Et là, en ce moment, elles en perdent. Hein,
Parce que vous avez vu la semaine dernière, je ne vais pas citer le nom, mais il y a une des grandes banques nationales.
On peut citer, c'est la Société Générale, qui fait un taux unique.
Et moi, j'ai trouvé ça intéressant.
C'est bien. Hein,
parce qu'au même moment, on publie les résultats de la BCE. Donc finalement, pour en profiter, on peut dire à celles et ceux qui nous écoutent, c'est surtout profiter de ces taux.
Et je rappelle qu'il y a quand même une guerre au Proche-Orient, et ça, c'est assez stressant. Je ne veux pas non plus stresser.
Vous proposez combien, il me semble, sur 25 ans? Je crois que c'était 3,10.
C'est 3,10 sur tout profil, en plus. Tout profil, tout revenu.
Sur 25 ans.
Donc, il faut vraiment profiter. Parce que ça ne va pas durer, je pense.
Il faut mettre ça sur Basile. Hein,
voilà, faut y aller.
En tout cas, les biens sont disponibles et tout à chacun peut venir chercher le bien qui lui fait rêver.
Non, mais ce qui démontre une chose, parce que ce n'était pas le cas il y a 2 ans, hein, quand les banques ont resserré le houblon, elles n'avaient pas du tout cette politique.
Parce que l'inflation a explosé il y a 3 ans.
Cette politique d'acquisition, donc on va dire prudence. Oui. Alors prudence sur la remontée des taux, bien sûr, ça va remonter. On n'est plus sur un cycle baissier, oui. On serait plutôt sur un cycle haussier, mais relativement bien maîtrisé, heureusement, pour les professionnels de l'immobilier comme les clients. Voilà, c'est bien la fin de notre émission préférée du week-end, Parlons Immo, sur Sud Radio. Je rappelle que vous pouvez réécouter cette émission sur YouTube, bien évidemment, et sur l'application de Sud Radio, et également sur Radio Immo la semaine prochaine, à midi, tous les mardis à midi, on retransmet cette émission. Vous pouvez liker, commenter, bien évidemment, avec beaucoup de bienveillance, et surtout nous écrire au 7 20 18, poser toutes vos questions, puisqu'on vous y répond chaque semaine. Voilà, prenez soin de vous, et on se retrouve la semaine prochaine sur Sud Radio.
Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency.
Avec Basile, votre application recherche immobilière.